When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Ce mercredi, Un fauteuil pour deux remonte le temps jusque sous le Premier Empire. Après les deux films consacrés à Mérine et la comédie Un moment d'égarement, le réalisateur Jean-François Richet se penche sur le plus grand voyou, une légende sous l'Empire, devenu policier, Eugène François Vidocq. Et pour jouer le rôle de Vidocq, comme une évidence, c'est Vincent Cassel qui endosse le costume. Ils ont tous les deux accepté mon invitation et c'est avec Jean-François Richet que nous démarrons Un fauteuil pour deux.
C'est qui, lui ? L'évadé perpétuel.
Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine.
Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur manière, leurs habitudes, leur monde.
J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux.
Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats ? Je peux vous les fournir.
Et à quel prix ?
Ma lettre de grâce.
Ah bon ? Rien que ça ?
Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci.
C'est moi ?
Non, merci. Bravo, surtout. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire merci pour le voyage, pour la claque ou pour l'apnée, parce que j'ai appris à être un peu plus en apnée grâce à votre film. La claque, je m'en suis pris plein.
On va la retirer, la claque, c'est pas la mode en ce moment. Ils ont supprimé les fessées là, à l'Assemblée.
Il faut aller au cinéma justement pour se prendre une claque, grâce à votre film. Quel a été l'élément déclencheur pour faire justement l'Empereur de Paris ?
Le personnage à l'époque. J'adore cette passion qui est l'histoire. C'est pas évident pour les gens qui me connaissent pas. Et notamment, on va dire, entre la Révolution française et la Commune de Paris. Mais principalement, j'aime beaucoup l'Empire, quoi. Je trouve que, bon, c'est un peu trop complexe à expliquer.
Mais il n'y a pas eu idée, un moment.
Moi, j'avais lu les mémoires de Vidocq je les avais lus il y a longtemps. Et puis c'est assez mal écrit. C'est vrai. D'ailleurs, ils s'en cachent pas, Vidocq. Hein. C'est assez mal écrit. Ça a été les deux premiers volumes ont été. Et puis en retravaillant dessus, évidemment, je les ai relus et je me suis dit ah ouais, mais quand même, c'est très intéressant, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous finalement, Vidocq ? En quoi il vous touche, ce personnage ?
Bon, c'est un personnage qui dit non. C'est un personnage qui a le droit à sa seconde chance. Moi, j'espère que ça existe encore. La seconde chance. Il commence. L'arc du personnage, il est extraordinaire. On va parler de notre époque maintenant. Imaginez-vous un des plus grands, celui qui s'évade le plus dans les prisons et qui va devenir chef de la police. Est-ce que ça peut exister en 2018 ? Non, mais sérieux. Peu importe les crimes qu'il ait fait. En l'occurrence, il n'a pas fait grand-chose. Mais il était quand même dans les bagnes les plus. Est-ce que Mérine aurait pu être chef de la police en 70 hein, ou 80? Déjà, c'est déjà dur hein, dans ces années-là. Mais actuellement, là, j'y crois encore moins. Comment on peut s'évader 27 fois de prison, bagne, prison, donjon, tout ce que vous voulez, et vous retrouver chef de la sûreté et en plus avoir des meilleurs résultats que les autres? Il avait trois fois plus de résultats que les autres. Il a arrêté 17 000 personnes avec sa bande. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Donc nous on parle pas de tout ça, mais on parle du moment où il va commencer à intégrer la police.
Et alors du coup, est-ce que la réalisation de l'Empereur de Paris vous a demandé un travail différent par rapport à vos autres films ?
Non, la réalisation non. La réalisation c'est les motivations des personnages. Mon travail c'est le même, que je fasse un Mérine, un moment d'égarement, Bloodfather, c'est les mêmes. En revanche, il y a d'autres choses qui se rajoutent avec un film comme L'Empereur de Paris. Déjà d'une, j'ai voulu une véracité le plus possible, aussi bien dans les costumes que j'avais toujours un mot en tête que je disais à mes chefs de poste, c'est l'immersion. C'est l'immersion. Je veux qu'on soit en 1809. Je veux qu'on soit à cette époque-là.
C'est dur de faire un film d'époque quand même.
C'est dur.
Ouais, enfin, il y a tout les détails, ça a demandé une préparation plus que les autres quand même.
Ah, ça oui, mais mon travail de metteur en scène, de mettre en scène, c'est la même chose. En revanche, on va dire tous les crins qui prend vachement de temps, c'est pas la même chose. C'est pas pareil quand je tourne dans une maison en Corse à un moment d'égarement ou dans le désert Bloodfather.
Et alors du coup, gros casting, Vincent Cassel, c'est une évidence ?
Pour moi, ouais, j'ai l'impression pour les financiers, pour les producteurs, pour le public. Bah, il y a pas beaucoup de, je sais pas ce que ça veut dire le mot star, mais juste voilà, on va quand même l'employer. Mais il y a pas beaucoup de stars qui peuvent faire des films en étant populaire et faire des films un peu sérieux, un peu sombres, même si ça reste un film d'aventure, hors comédie, qui peut aussi bien être crédible dans une scène d'action, de combat. Et il y en a dans le film, mais on aime bien, en même temps, il peut être crédible aussi. Quand il commence à tomber amoureux de son personnage, c'est pas facile. Et Vincent, je trouve qu'il a une grande latitude de jeu. Alors, c'est pas le seul, mais pour moi, c'est une évidence. Oui, mais alors, pour être honnête,
c'est une évidence aussi de cœur, non ?
C'est une évidence. Oui, mais alors, pourquoi ? Parce qu'on m'a proposé le scénario en même temps que Vincent. On m'a dit voilà, est-ce que ça vous intéresse à tous les deux ? On n'a pas dit à Vincent est-ce que ça t'intéresse avec notre metteur en scène. Vincent n'avait pas le choix. C'était moi. Et moi, j'avais pas le choix. C'était Vincent. On a lu le scénar de façon séparée. Ouais, d'Éric Bénard. Et on a lu le scénar, on s'est appelé, et puis on a commencé à parler du scénar, sans dire tous les deux qu'on l'acceptait. Puis à la fin, on fait, mais on n'a même pas dit qu'on l'acceptait, mais c'est déjà fait. Il me fait, bah ouais. C'était une évidence, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin de dire, on va le faire. On parlait du scénar et comment on pouvait l'améliorer, et ça c'est normal, parce qu'après, il faut que moi je me le réapproprie. Et puis lui aussi, Vincent, d'ailleurs, quand on a écrit une première version, on a réécrit une première version avec Éric Bénard, on le fait lire à Vincent, et on en parle, là, ce personnage, ça, pour penser pour ça, ça, et c'est normal. Et c'était une évidence sans qu'on ait besoin de l'affirmer. C'est venu tout seul, ouais.
Et Éric, justement, vous le connaissiez déjà, il vous a proposé comme ça?
Déjà, c'est les producteurs qui m'ont proposé. Alors, je sais pas si c'est Éric. Je crois que c'est Éric qui leur a glissé nos deux noms, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, ils étaient en osmose avec la production, avec Mandarin Production. Je le connaissais par son travail. Et puis quand j'ai lu le scénario, il était extrêmement bien structuré, quoi. La tonalité n'était pas la même. C'était plutôt plus léger. C'était plutôt film KPDP, on va dire. Les personnages n'étaient pas les mêmes et l'Empire n'était pas présent. Mais j'ai vu comment le scénario était construit. Je me suis dit, mais moi, je vais juste le mettre à ma sauce et puis ça va aller. Mais là, et c'est très, très dur de trouver un scénario structuré, construit. On tombe rarement dessus. Moi, je dois lire une centaine de scénarios par an. Honnêtement, il y en a un ou deux, trois maximum par an et tout pays confondu.
Donc là, c'était magique. Toutes les planètes étaient alignées pour le faire.
Puis quand j'ai rencontré Éric, c'était tout de suite l'osmose. Donc je savais qu'on pouvait bien travailler ensemble. Et d'ailleurs, on retravaille ensemble pour d'autres projets.
Mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans un western.
Ah ouais, mais c'est ce qu'il me dit. Et moi, j'ai pas cette impression-là. Mais écoute, il le dit assez souvent et je le crois sur parole aveuglément. Parce que c'est l'époque des westerns. En France, il se passe ça alors que ils sont encore en train de faire les Indiens, quoi. Non mais c'est fou le décalage. Le décalage. Il y a moins de différence maintenant, on va dire, entre nos peuples français et américains qu'à l'époque. Même il suffit. Moi, je lisais en ce moment des bouquins sur la Commune de Paris. Donc c'est en 1871. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Américains à cette époque, quoi? Ils sont encore en train de faire leur petite guerre entre eux là. C'est fou. Enfin, c'est le décalage. Et donc peut-être que c'est un western, ouais. Peut-être que c'est un western parce qu'en plus on redonne du mythe comme les Américains ont su le faire avec les westerns. Donc peut-être.
Et puis la BO, l'ambiance que vous avez réussi à mettre dans le film, c'est extraordinaire.
La BO, je peux d'autant plus en parler parce que j'ai été les chercher. Pour moi, c'est les deux trois meilleurs au monde. Marco Beltrami, c'est des mecs qui font des... Déjà, ils avaient fait les Mérines à l'époque, mais ils font pas que ça. Ils ont Terminator, Aerobot, voilà. Non, mais est-ce que c'est des vrais artistes, quoi? C'est des gens qui sont pas dans une... Ils travaillent à Hollywood, mais ils sont d'une sensibilité... Mais c'est incroyable, quoi. Et puis, ce qui les motive, c'est pas l'argent, sinon ils feraient pas un film comme ça, parce que, évidemment, c'est un film qui coûte cher en France. Mais c'est le budget sandwich de Star Wars.
Non, mais c'était quand même un challenge, ce film.
Ouais, c'est un challenge. Mais parce que je leur ai demandé un truc, ils ont compris tout de suite. J'ai dit, vous ne suivez pas l'action. Ça m'intéresse pas que votre musique, elle amplifie l'action avec des ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça m'intéresse pas. Vous suivez juste les motivations des personnages, vous suivez juste l'émotion qu'ils peuvent dégager. Et puis c'est du travail, ils proposent des choses, ils disent non, je vais là-bas, on cherche ensemble. Non, mais la musique, elle est bien, ouais, je suis d'accord.
Quelle scène a été la plus émouvante à tourner pour vous ou qui vous a demandé un travail particulier?
C'est toujours avec les acteurs. Il y a un plan séquence du personnage de Vidocq.
Des super acteurs, hein. Vous avez un casting.
Ouais, le casting est super. Mais moi, je me force déjà. Quand moi, j'ai une directrice de casting, je lui dis, tu sais, moi, je m'en fous d'où ils viennent, les gens. Ils peuvent venir de la télé, ils peuvent venir du cinéma d'auteur, ils peuvent venir du grand spectacle, ils peuvent venir du cirque, je m'en fous. Je veux juste qu'ils puissent incarner un personnage et que surtout l'osmose entre eux puisse se faire. Et c'est pour ça que c'est un peu ça, ce qu'on avait fait sur Mérine. On avait pris des acteurs vraiment populaires, talentueux, comme Lanvin, Depardieu. Puis on avait pris à l'époque des acteurs qui étaient plus confidentiels, mais qui faisaient des films d'auteur, et qui sont d'excellents acteurs, mais comme Mathieu Amalric, par exemple. Et là, c'est un peu ça. La scène, voilà, scène émouvante, c'est le plan séquence quand il est face à lui-même et quand il est face au bagnard, mais il est face à lui-même. J'ai aimé celle-là, mais j'ai adoré tourner la scène de fin entre la confrontation entre Vidocq et Fouché, donc Lucchini. J'en ai tellement vraiment des scènes. J'espère que je les emporterai dans ma tombe.
Et j'avais une dernière question, mais allez, je la repose quand même. Racheter son honneur et sa liberté vaut tous les sacrifices. Est-ce que c'est le message?
Non. Je sais pas si c'est le message, mais racheter son honneur vaut tous les sacrifices. Non, je crois pas, parce que ça veut dire qu'on est égocentrique. Est-ce que racheter son honneur l'emporte sur le fait de risquer la vie de ses proches? Il combat pour un truc qu'il obtient pas. Donc les grands concepts, les grandes postures, les grands slogans, ça nous déshumanise un peu, quoi. Et justement, c'est pas un super-héros, Vidocq. Et sa vie est vous savez, c'est une leçon, l'histoire. Parce que Vidocq, ça je le dis avec beaucoup d'émotion, Vidocq s'est racheté, s'est fait une place dans la société, il a arrêté 17 000 personnes. Il avait trois fois plus de résultats que les autres. Et puis à la fin de sa vie, il écrivait au préfet pour 100 francs, parce qu'il n'avait plus à vivre, parce qu'il était plus flic, il était trop vieux. C'est ça quand même. La société, on va mettre un pont avec maintenant, la société nous ravage, nous lamine. Et le mec a donné sa vie pour l'ordre, pour le bien-être de la société, même s'il est borderline avec la loi, même si il a des méthodes peu orthodoxes, et à la fin, il peut pas se nourrir. C'est dur, hein, quand même. La vie, elle est difficile.
Heureusement qu'il y a le cinéma pour rêver.
Un voleur reste un voleur. Et les résultats restent des résultats.
L'Empereur de Paris, c'est un vrai coup de cœur pour ce mercredi. Et tout de suite, Vincent Cassel s'installe dans le fauteuil.
Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq.
Bonjour Vincent.
Bonjour Betty.
En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Saint-Jean-de-Luz, au mois d'août, pour le film Le Monde est à toi, donc super comédie déjantée. En juillet, il y a eu Fleuve Noir, un polar complètement dingo. On a eu O Grande Circumístico.
Exactement.
Exactement.
Avec l'accent, bravo.
Et aujourd'hui, L'Empereur de Paris, enfin des rôles hauts en couleur, plein de nuances à jouer. Est-ce qu'on peut dire que le cinéma est un bac à sable pour adultes?
Écoutez, c'est pas inintéressant parce que je continue, d'ailleurs je faisais la réflexion l'autre jour avec, je disais ça à Eric Toledano, qui est donc le metteur en scène de Nakash et Toledano, et on était en train de tourner, et je disais mais quand même, t'as pas l'impression que des fois on fait un métier vachement bizarre? Parce qu'effectivement, c'est-à-dire que le cinéma c'est... tous ces adultes, mais moi j'en ai eu conscience très très tôt, qui sont en train de faire des efforts hallucinants pour faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Et il y a quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire vain, des fois. Je me dis, mais à quoi ça sert tout ça?
Non, pas vain quand même.
Ben écoutez, si, parce que ben, après quand le film est réussi, on se dit finalement c'était pas vain, ça voulait dire quelque chose. Et puis, mais c'est quand même, on est en train de, en fait, on s'amuse à faire croire quelque chose. Et il y a quelque chose de, si on le regarde d'un certain point de vue, pas très adulte là-dedans, de faire semblant de tout ça.
Non, mais c'est une chance.
Ah, mais moi,
de garder son âme d'enfant à vie, en fait.
Mais complètement, moi, j'adore ce métier pour ça aussi. C'est parce que je pense que ça fait appel à notre fantaisie et que finalement, la fantaisie, c'est ce qui nous permet de vieillir en étant sans devenir trop sérieux, c'est-à-dire qu'en gardant un peu ce regard émerveillé sur le monde. Quand on est acteur, vous savez, on peut regarder n'importe quelle situation, même les plus dures de l'existence, avec finalement un peu de recul, même quand c'est des choses qui nous touchent à nous directement. Moi, ça m'est arrivé dans des moments très très graves de ma vie, et de me voir traversé par une émotion et de me dire « putain, je l'aurais pas joué comme ça ».
C'est vrai ?
Ouais. Donc c'est une espèce de distance qu'on prend par rapport à la réalité, je pense.
Mais est-ce que c'est aussi l'expérience qui fait qu'on prend plus de distance? On en prend moins quand on est jeune acteur,
quand on est jeune acteur, d'abord, je pense qu'on fait beaucoup plus d'efforts. On a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de coller à ces modèles, etc. Et puis après, très vite, on ramène la chose à soi et on se dit bon là voilà, moi maintenant si je fais ça, en fait, en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande votre point de vue sur un instant. C'est-à-dire que on le vit d'une manière simple, parce qu'il y a des grands acteurs, il y en a plein, des bons acteurs, des bonnes actrices, il y en a énormément. Mais disons que un acteur, un tant soit peu vrai, est irremplaçable parce qu'il est le seul à pouvoir le faire comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fera différemment, tout aussi bien. Mais c'est le seul qui le fera comme ça. Vous prenez Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, il joue un truc. Il n'y a que Gilles Lelouch qui peut le faire comme ça. Je sais pas, moi, je pense à Isabelle Huppert, il n'y a que elle qui peut le faire comme ça. Louis Garrel, il n'y a que, vous voyez, donc c'est des couleurs, en fait. Quand on peint, si on n'a pas les mêmes couleurs, ça fera pas le même tableau. Donc, on peut changer les couleurs. Mais on participe au résultat final quand même.
Mais c'est un point de vue aussi partagé avec le réalisateur que vous connaissiez déjà, qui est Jean-François Richer pour L'Empereur, par exemple. C'était une évidence. Il m'a dit, on s'est parlé, bim bam boum.
Oui, non, mais en plus de ça, on nous l'a proposé ensemble. Ouais. En fait, la production est venue nous voir tous les deux. C'était le binôme qui les intéressait. C'était le binôme de Mérine. Ils trouvaient qu'il y avait quelque chose à faire avec l'histoire de Vidocq. Et effectivement, tous les deux, on s'est reconnus là-dedans tout de suite. On a dit, ouais, non, ça, c'est un truc pour nous. On va pouvoir donner quelque chose, je pense.
Et ce binôme, il est au-delà du professionnalisme. Il y a une amitié, il y a un...
Alors, bizarrement, c'est-à-dire que, en fait, Jean-François, moi, j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour lui, mais on se voit pas tellement en dehors du cinéma. C'est-à-dire que, de temps en temps, on se voit une fois tous les deux, trois mois, comme ça, on va bouffer un truc, mais c'est pas un mec avec qui je passe mon temps à traîner, à refaire le monde. Par contre, c'est vrai que quand on est sur un plateau, on a, je crois, une complémentarité qui fait que c'est très fluide et que ça va vite. C'est-à-dire que, on perd pas de temps, moi, je lui fais confiance, il me fait confiance, et du coup, construit les choses de manière assez organique et assez vite. Et le temps au cinéma, encore plus qu'ailleurs, c'est de l'argent. Donc, évidemment, c'est bon à prendre.
Donc, c'est un bon metteur en scène, c'est un beau duo.
Oui, je crois.
Alors, qu'est-ce qui est difficile dans ce genre de film? Le texte, la concentration, tout ce qui est tout l'apparat, tous les costumes, l'engagement physique?
Je sais pas si ce film est, dans ce sens-là, est très différent d'un autre. C'est-à-dire que...
Vous avez l'habitude des films où vous engagez à fond, il y en a beaucoup.
On s'engage toujours, en fait, hein, quand on fait un film. Si on est là un peu à moitié, ça marche pas. Il faut, on prend ce qu'on a à faire, à bras le corps, et puis on essaye de le faire le mieux avec toute notre énergie, avec tout notre savoir-faire, éventuellement. Mais celui-là, comme un autre. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des décors, des costumes, etc., ce ne sont que des ingrédients, mais je veux dire, de faire ce film-là, ou je sais pas, un film avec Xavier Dolan, finalement, ce qu'il y a à faire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre action et coupé, il faut qu'on arrive à rendre la chose crédible.
À jouer, quoi.
Voilà.
Mais il y a quand même une concentration. C'est la concentration qui est fatigante à la fin de la journée. Pour expliquer aux gens, enfin, le cinéma, c'est tout le temps, on coupe, on reprend, c'est pas comme au théâtre.
Bien sûr, mais c'est vrai que quand on arrive le matin sur un plateau de cinéma, on se dit bon. Allez, on y va. Mais on n'a pas trop le temps de réfléchir dans une journée de tournage, en fait, finalement. Parce que les choses se font. On n'a pas de temps à perdre. Dès qu'on commence trop à gamberger, ça fait retomber un peu la sauce. Vous voyez, la mayonnaise qui commence à se casser la gueule. Donc, ça veut dire qu'il faut constamment pas chercher, mais trouver. Et du coup, oui, c'est une forme de concentration. C'est-à-dire que là, je viens de faire un film avec donc Nakache Toledano et où il y avait pas mal de non-acteurs dedans. Et je me rappelle de ce jeune mec avec qui je tournais, et qui avait jamais fait ça sa vie. Et il était, surfatigué en fin de journée, quoi. Et tous les mômes qui jouent dans le film et qui avaient jamais fait ça, ils étaient très fatigués. Alors pourtant, il y en a qui étaient sportifs, il y en a d'autres qui s'occupent d'autistes toute la journée, et donc qui sont des tâches quand même extrêmement prenantes. Mais quand on est sur un plateau, c'est-à-dire des fois on fait rien, on est obligé d'attendre, etc. Et pourtant, c'est exténuant parce qu'on est là, on gamberge, on a cette tension, on se dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce que hop, puis tout d'un coup c'est action et coupé, il faut arriver à faire la chose, même si c'est très calme, c'est quand même un moment de tension, etc. Donc c'est une forme de concentration, je dirais. C'est pas de l'extérieur, des fois on peut trouver. Je sais que les gens qui connaissent pas le cinoche et qui débarquent sur un plateau trouvent ça chiant. Et je comprends. La fabrication d'un film, quand on n'est pas en train de jouer ou quand on fait pas partie de l'équipe à proprement dit, ça peut être assez fastidieux à regarder. Mais dans le fond, ça fait partie du processus. Et quand on est dans ce processus, ben c'est assez prenant quand même. Très même, je dirais.
Reparle un petit peu du personnage de Vidocq, il est quand même tiraillé. Vous avez plusieurs cartes à jouer. Qu'est-ce qui a été le plus enrichissant pour vous?
Moi, ce que j'ai découvert dans ce film, en fait, c'est que ce mec était extrêmement seul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la solitude de Vidocq. C'est un mec qui trouve pas sa place dans la société. C'est-à-dire qu'il est rejeté de tous les côtés. Et du coup, c'est un mec, c'est presque un personnage de western, en fait. Vous savez, c'est le cow-boy solitaire qui s'en va, qui veut pas d'histoire d'amour parce qu'il y croit pas, il y croit plus. Et puis, de toute façon, s'il embarque quelqu'un dans son mode de vie, ça va mettre cette personne-là en danger. Donc, c'est un mec qui est confronté à sa solitude tout le temps. Et il a l'impression que personne ne le comprend. Donc, je dirais que ça, c'est ce qui m'est apparu en le jouant. Après, je me suis rendu compte que, en fait, quand on crée un personnage comme ça, finalement, dans le meilleur des cas, on essaye de sortir un peu de ces, de sa zone de confort. Et c'est comme si on ouvrait des portes. Et ces portes-là, une fois qu'on les a ouvertes, finalement, ben, elles se referment jamais. C'est-à-dire que des fois, c'est à travers un rire. Je me rappelle, par exemple, je sais que le rire de Mérine, qui amène ma pompe que j'ai découvert sur le plateau, ben, finalement, c'est un rire que je continue à faire dans la vie sans faire exprès. Donc en fait, c'est comme si tout d'un coup, avec le cinéma et avec des personnages, on ouvrait des portes de sa personnalité qui finalement enrichissent ce qu'on est en tant que personne.
C'est beau.
C'est comme ça.
Allez, vos scènes préférées, une ou deux?
Bah, il y en a pas mal, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement, qui d'ailleurs est un plan séquence. C'est quand il descend, quand tout le monde l'abandonne, et il va se confronter à ces mecs qu'il a envoyés au bagne pour leur expliquer qu'il n'est pas une balance parce qu'il n'a rien à voir avec eux. Vous voyez cette scène? Et cette scène, je sais pas pourquoi, en la jouant, en plus c'était un moment où on était enfermé dans un truc fin fond, on faisait froid, ça sentait mauvais, on était avec plein de monde, etc.
Mais c'est fort parce qu'il est...
Là, il se confronte à lui-même, en fait. Il va dans la cage au lion.
À son passé aussi.
Ouais, il se confronte à son passé. C'est comme si, vous savez, ça me fait penser un peu à ces mecs qui, tout d'un coup, refusent leur famille. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'aller voir ses parents, ses frères, d'aller, j'ai rien à voir avec vous, qui refusent la filiation qu'il peut y avoir, qui s'émancipe en fait de leur famille. Et il y avait un moment un petit peu psychanalytique, je dirais, dans le personnage de Vidocq à ce moment-là, où tout d'un coup, il va voir ses mecs, parce que finalement, il leur dit qu'il les déteste, mais il leur souhaite quand même bonne chance.
Pourquoi il faut aller voir l'Empereur de Paris?
Parce que c'est un espèce d'ovni, je crois, dans le cinéma français d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un grand film de divertissement, d'aventure... et qu'on en fait plus beaucoup des comme ça, que je crois que ça a été fait avec beaucoup de soins et en plus avec un souci du détail, parce que oui, c'est un film d'aventure et une espèce d'épopée flamboyante, mais c'est un film politique et c'est un film qui nous parle aussi de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vidocq, c'est le mec qui a inventé la police telle qu'elle est aujourd'hui. Avant Vidocq, la police, c'était des gens qui étaient complètement déconnectés de la rue, et là c'était un mec de la rue qui devient chef de la police.
Tu sais, je me moque de savoir qui tu es.
Toi peut-être, d'autres pas.
Je peux rendre des services, obtenir une lettre de grâce, par exemple.
J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq.
Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé?
J'ai fait de nous les empereurs de Paris.
Il n'y aura jamais qu'un seul empereur.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.